This is Carbon Critic, a podcast from the Institute for Advanced Sustainability Studies. My name is Cecilia Oliveira, Group Leader for the Democratic Governance for Ecopolitical Transformations Research Group. Our starting point is to think of carbon emissions not as a simple chemical effect, but as a political component of our times.
Hi, today it's not Cecilia who is hosting the podcast. I am Bernard Jurema, Research Associate at the IASS. In this episode of Carbon Critique, our guest is Maurizio Lazzarato, an Italian philosopher based in Paris. As I am the only Brazilian Francophone in our team, I will be hosting today's episode. Lazzarato is a researcher at the French National Center for Scientific Research and at Panthéon Sorbonne University. He is also a member of the Collège International de Philosophie. We will talk about neoliberalism, populism, fascism, authoritarianism, and how the use of force, inequality, and the ecological crisis are connected. In his most recent book, Capital Hates Everyone, Fascism or Revolution, Lazzarato argues that capital functions in a logic of war, dominating ever more aspects of social life and turning liberal society increasingly less democratic. We talk to him about how the climate crisis fits into his analytical framework. Lazzarato's work brings crucial concepts and perspectives that can help us to think the relationship between what is possible and what is impossible in face of the climate emergency. I talked to Lazzarato about this and many other aspects of his book.
Si. Bon, merci d'être avec vous, d'être avec nous. C'est un plaisir de pouvoir parler avec vous et discuter un peu vos idées. Votre ouvrage le plus récent s'intitule « Le capital déteste tout le monde, fascisme ou révolution ». Et pour commencer, on voudrait savoir pourquoi ce titre. Comment voyez-vous la continuité avec vos livres précédents? Quelle est la critique du capitalisme que vous souhaitez mettre en place? Pourriez-vous nous parler de la façon dont votre intérêt pour la dette vous a amené à la relier à la gouvernementalité et quelles sont les implications de ce lien?
Ouais, le problème de la dette, c'est que en travaillant sur la dette, j'ai été amené à travailler sur une crise qui a eu lieu exactement il y a un siècle, à la fin du 19e siècle. Donc il y a une crise du capitalisme après la Commune de Paris, fondamentalement, et le capitalisme est sorti de cette crise avec une triple stratégie, c'est-à-dire colonisation, monopole dans l'économie et financiarisation. C'est-à-dire, il y a déjà un siècle, il y avait cette triple stratégie du capital qui a mené après à la Première Guerre mondiale, au fascisme, aux guerres civiles européennes. Et dès que la crise des années 70 s'est proposée, les capitalistes sont allés chercher encore cette vieille stratégie. Donc, ils ont appliqué une financiarisation beaucoup plus poussée, une nouvelle forme de colonisation, que moi j'appelle le colonialisme interne, et une centralisation encore plus accrue de l'économie, du pouvoir économique et du pouvoir politique. Et donc, avec effectivement des comportements qui sont très semblables et très différents d'il y a un siècle, mais de toute façon, on va vers, après la crise financière, comme il y a un siècle, il y a la montée du fascisme, il y a la montée de l'extrême droite. Et donc, c'est pour ça qu'avec la crise de la dette, je suis allé reconstruire l'histoire du capitalisme. Et si on voit l'histoire du capitalisme, exactement à la fin du 19e, début du 20e siècle, s'est produit une crise qui est très semblable de celle contemporaine, même si elle est différente parce qu'entre-temps, ils ont trouvé les façons d'intervenir dans la crise. Mais le phénomène, c'est très semblable. C'est-à-dire qu'il y a une centralisation du pouvoir politique, Et donc, une crise de la démocratie, une montée de l'extrême droite partout dans le monde, exactement comme il y a un... Et les possibilités d'une guerre. Alors, la Première Guerre mondiale, c'était l'aboutissement de cette stratégie. Là, on ne sait pas encore où on va. Hein, mais fondamentalement, on est dans une situation où ces dangers, ces menaces sont encore présentes. La Première Guerre mondiale n'est pas très bien analysée dans l'histoire même du marxisme, hein, parce que les marxistes ont du mal avec la guerre. Mais la Première Guerre mondiale est très importante parce qu'elle détermine un changement radical du capitalisme. La Première Guerre mondiale, pour la première fois, on a les modes de production qui s'imbriquent de façon très forte avec la guerre, avec l'État et avec le travail. C'est la société dans son ensemble est mobilisée, ce qu'à l'époque on appelait mobilisation générale, hein, mais cette production qui est amenée au maximum, elle est une production pour la destruction, pour la guerre. Donc, à ce moment-là, le capitalisme devient pas seulement un mode de production, il devient aussi un mode de destruction. Et ça, c'est, pour moi, c'est très important, c'est souligner le fait que le capitalisme n'est pas seulement... La destruction a toujours été au cœur du capitalisme. Mais avec la Première Guerre mondiale, devient des destructions relatives. Chaque crise du capitalisme implique la destruction des forces productives pour créer une nouvelle accumulation. Mais avec la Première Guerre mondiale, la destruction devient destruction absolue, qu'elle aboutit avec la Deuxième Guerre mondiale à la construction de la bombe atomique. La bombe atomique, c'est la cristallisation de la possibilité de la destruction de l'humanité. La Première Guerre mondiale, fondamentale, jusqu'au capitalisme, disons comme ça, les hommes mouraient individuellement, mais l'humanité ne mourait pas. Là, par contre, on a la possibilité, les hommes continuent à mourir individuellement, mais il y a aussi la possibilité de la mort de la fin de l'humanité. Alors, cette destruction qui s'est manifestée par la première fois avec la Première Guerre mondiale, si vous lisez le texte d'Ernest Young, il dit que donc cet Allemand qui était un aristocrate un peu conservateur, mais qui a bien analysé la Première Guerre mondiale, disait que la première Guerre mondiale, c'était moins une bataille qu'une grande organisation du travail. C'était un immense machinisme du travail. Et c'est ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est vraiment cet renversement. Donc cette destruction, s'est produit une réversibilité entre production et destruction. Cette production, cette réversibilité entre production et destruction, c'est-à-dire que chaque acte de production, c'est en même temps un acte de destruction, et chaque acte de consommation, c'est en même temps un acte de destruction, continue à se produire avec la crise climatique, c'est-à-dire que le capitalisme est en train d'amener directement à la destruction de l'humanité d'une autre façon. Il ne détruit pas l'humanité avec la bombe atomique, mais le détruit avec... la possibilité de vivre dans cette planète. Donc, c'est pas la fin de la Terre, parce que la Terre va se porter très bien sans les hommes, hein, mais elle se porte sûrement mieux. Mais sûrement, il y a cette... Voilà. Et donc, c'est très important de souligner cet aspect. Le capitalisme est dans son évolution, est devenu un mode de destruction. Et cette... réversibilité de production ou destruction sur laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que même les actes banals dans le capitalisme, aujourd'hui, n'importe quelle production, n'importe quelle consommation, c'est en même temps un acte de destruction. Donc, c'est pour ça que je dis que le capitalisme, le titre de mon livre, hein, c'est par rapport à ça. Je ne l'ai pas écrit dans ce livre parce que bon, je l'ai écrit dans le prochain qui va sortir. Mais donc, d'une certaine façon, la contradiction est encore plus aiguë. Hein? C'est-à-dire qu'on va vers à la différence. C'est-à-dire le capitalisme aujourd'hui contrôle mieux qu'il y a un siècle la crise. Donc, il n'arrive pas immédiatement à la guerre. Il n'arrive pas immédiatement au fascisme. On a une forme de très la possibilité que la démocratie convive avec le fascisme. Ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a vu avec Bolsonaro, avec Trump, ce qu'on voit en Europe, c'est que les formes fascistes peuvent convivre avec la démocratie. Il n'est pas nécessaire d'un changement radical comme il y a un siècle. On est dans une situation qui avait été analysée par un jeune allemand déjà à la fin des années 70, qui s'appelle Hans Junger Krall, et qui est mort très jeune, à 27 ans, mais c'était un génie philosophique. Et lui, déjà en Allemagne, à l'Allemagne de la fin des années 60, il avait dit qu'effectivement, on allait vers ce qu'il appelait un État autoritaire. Et sans passer, c'était pas nécessaire de passer par une crise politique, une crise économique. On aurait installé des formes autoritaires et fascistes directement à travers les instruments de la démocratie, à travers les décrets administratifs, hein, c'est dans lesquels on est complètement plongé depuis en France, depuis 2007, on est en situation d'émergence continue. Hein. Donc voilà, c'est cette histoire de la dette m'a amené effectivement à arriver à ce concept de capital comme réversibilité de production et destruction. Et donc là, si on n'arrive pas à bloquer cette mode de production, on arrive effectivement à l'extinction de l'humanité. Ça, c'est sûr. Hein? Donc, on a toujours la possibilité d'être détruit par les bombes atomiques parce qu'elles sont toujours là. Hein? Mais ce qui était, au lieu d'avoir une violence concentrée dans la bombe, on a une violence qui est très diffusée, hein, mais qui va empêcher l'humanité de se reproduire. Donc, en deux siècles, le capitalisme a réussi à détruire ce que la nature avait mis quelques millions, milliards d'années à produire. Donc, c'est un peu ça, la thèse fond du livre, c'est qu'effectivement, on va vers cette puissance de destruction qui émerge dans le capitalisme.
Oui, et dans votre réponse, vous avez touché déjà dans des éléments de notre prochaine question. Alors, c'est bien, on est dans les bons chemins. Je voudrais vous demander maintenant un peu sur le financement du climat. Nous devons tout financer et il va de même pour la politique climatique. L'un des principaux sujets de la COP 26 était justement le financement du climat. Quelles sont les façons de penser à ce sujet? S'agit-il encore de réflexes des modes de développement néocoloniaux? L'endetté climatique est-il le nouvel homme endetté, pour utiliser l'un de ces termes?
Non, là, je pense que c'est un faux problème. Hein. On ne peut pas résoudre cette question. Je dis là, on a atteint avec, si mon analyse est correcte, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un niveau de radicalité qui ne peut pas être résolu par, c'est-à-dire cette hypothèse de reconversion écologique à l'intérieur du capitalisme présuppose que le capitalisme est capable de se améliorer les marchés. On appliquerait les lois des marchés à la pollution, mais on a une histoire ormai de deux, trois siècles. On sait que le capitalisme ne va pas résoudre la question, il va seulement l'aggraver. C'est-à-dire, cette puissance de destruction, elle est allée, c'est augmentant dans l'histoire du capitalisme. Hein. Elle a commencé en visant pratiquement, comme au 19e siècle, dans les usines de l'Angleterre, hein, il y avait les dangers que les prolétaires, les ouvriers qui étaient engagés dedans, c'était des enfants, des hommes et des femmes, hein, risquaient de mourir. C'est-à-dire, le Parlement anglais a dû intervenir pour ne pas détruire la force de travail que les capitalistes employaient. Au XXe siècle, on a eu cette destruction, cette passage ultérieur de puissance de destruction qui est arrivé effectivement au mort de la guerre mondiale. Hein. La guerre mondiale a tué, les deux guerres mondiales ont tué beaucoup de prolos du nord et beaucoup de colonisés du sud. Hein. Beaucoup, mais des millions de personnes. Avec la deuxième guerre mondiale, on est arrivé à la possibilité réelle de destruction de l'humanité. Et là, on arrive à un autre niveau de destruction encore. Je ne pense pas que ce soit à travers la reconversion écologique qu'on puisse résoudre cette question. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut que nous introduisions pas de nouveaux types de financement, mais une capacité de détruire ce système. Ou bien on l'arrête d'une façon ou d'une autre, hein, ou bien on va tous passer. Hein. Marx disait dans les manifestes du Parti communiste, Marx dit une chose qui n'est pas souvent remarquée, c'est-à-dire que la lutte des classes peut se résoudre avec la victoire d'une des deux classes ou bien l'anéantissement des deux classes. Ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on va vers, pas la victoire du prolétariat ni la victoire de la bourgeoisie, mais on risque d'avoir la disparition de tout le monde. Quoi. C'est ça fondamentalement que Marx avait prévu. Donc, les financements, je ne pense pas qu'elle puisse, le financement de l'écologie verte et tout ça, je ne pense pas que ce soit une solution. C'est seulement aggraver la situation telle qu'elle est. Hein. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit confier ça au marché, c'est une catastrophe. Hein. Surtout que le marché n'existe pas. L'autre chose à souligner, c'est que cette idéologie du marché n'existe pas. Comme je disais tout à l'heure, depuis un siècle et demi, ce qui commande l'économie, ce n'est pas les marchés, ce sont les monopoles. C'est une concentration du pouvoir énorme. Hein. C'est l'État et les monopoles qui décident. Hein. Les marchés ne décident rien. Hein. Les marchés, c'est seulement les marchés des monopoles. C'est les marchés contrôlés par l'État et les monopoles. Donc, c'est devoir du marché, de donner quelque chose au marché, c'est absolument fantasieux. Donc, ils nous racontent des histoires que l'économie, c'est une économie de marché. Ça n'a jamais été une économie de marché. Hein. Quand elle a été implantée aux États-Unis, hein, au début des années. C'est-à-dire, ce qui s'est produit dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette concentration de l'État et du capital, la constitution des monopoles, l'intégration des monopoles à la guerre, ça c'est un phénomène irréversible. On ne va pas revenir au marché. Hein? La chose absolument ridicule, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, pendant la fin du 19e, hein, le capitalisme a colonisé tout le monde, donc a massacré le sud du monde. Hein. Il a organisé la guerre entre les impérialismes. Les économistes ont sorti la théorie de l'équilibre général. L'équilibre général n'a jamais existé dans ce capitalisme-là. C'était exactement le contraire. Le capitalisme visait les déséquilibres absolus. Si le capitalisme arrive à l'équilibre, il est mort. Il ne peut pas y avoir d'équilibre. L'équilibre, c'est la mort du capitalisme. Aux années 70, lorsque le capitalisme avait besoin de relancer les déséquilibres, d'opérer une concentration encore plus grande de la production, on a inventé une autre théorie du marché. Voilà. Les théories du marché naissent au moment où elles ne peuvent pas fonctionner réellement. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'idéologie dans le sens de Marx. Où Foucault est tombé aussi, Foucault est tombé dans cette idée, dans cette idéologie, la biopolitique comme gouvernementalité. Il y a rien de... La gouvernementalité, elle n'est pas faite par les marchés, elle est faite par l'État et par les monopoles, par les duopoles, si on veut. Hein. Donc voilà, je pense que c'est pas la solution du financement de la conversion qui peut résoudre la question. Au contraire. Ça va seulement. La production capitaliste n'apporte pour le capital, il faut comprendre que le capital, produire des voitures, produire des maisons, produire des yaourts, produire de l'écologie verte, c'est la même chose. Hein? Absolument pas. Par définition, le problème c'est que qui produise des yaourts, qui produise de la reconversion écologique, il faut qu'il fasse du profit. Et faire du profit, on retombe toujours sur le même mécanisme. Donc voilà, cette histoire d'un siècle et demi, on dit qu'on va sortir, on va vers... Le capitalisme, c'est une civilisation qui ne peut pas se civiliser, par définition. Et justement, on va vers l'extension de l'humanité. Voilà.
Donc, ça, c'est très bien et ça nous mène à la prochaine question qu'on a. De nombreux penseurs et chercheurs universitaires tentent aujourd'hui de comprendre le lien ou la relation entre néolibéralisme, fascisme, autoritarisme, voire populisme. Vous vous inscrivez dans ces cadres aussi. Qu'est-ce que nous devons examiner pour comprendre les moments présents? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez que ce terme « nouveau fascisme » que vous employez est analytiquement important pour donner un sens au moment historique actuel?
Mais parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nous, on analyse l'histoire du capitalisme. Donc, si on va vers la crise qui ressemble un peu à celle-là, hein, celle qui a commencé vers 1870, c'est-à-dire après la Commune de Paris, où le capitalisme, j'ai dit tout à l'heure, hein, a choisi la stratégie colonisation, monopole et financiarisation, parce que le capital financier était déjà hégémonique il y a un siècle. Hein. Ce n'est pas une nouveauté actuelle. Si vous lisez les débats économiques de l'époque, surtout les débats qui s'est développé à l'intérieur des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire entre Lénine, Luxembourg, Hilferding, l'hégémonie du capitalisme était déjà réalisée, c'était déjà une économie de rente. Ce qui est bizarre, c'est ce qui s'est passé après. C'est pas la peine de discuter, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 30 ans. Mais 30 ans, c'est l'exception. Dès que le capitalisme... Et cette façon de sortir de la crise à travers cette financiarisation, colonisation et monopole, a mené à quoi? A mené que pour résoudre cette situation, la débouchée, c'était les guerres et le fascisme. C'est ça, historiquement. Et on est sorti de cette situation à travers la guerre, les deux guerres mondiales, que c'était une destruction jamais vue dans l'histoire de l'humanité, et le régime fasciste. Le régime fasciste parce que, effectivement, la chose très différente par rapport à cette époque, c'est qu'à l'époque, il y avait une véritable alternative socialiste, communiste, qui était en place. Donc, il y avait vraiment un danger. Il y avait un danger communiste parce que la Première Guerre mondiale avait donné lieu à la révolution soviétique. Donc, il y avait un véritable danger. Et même en Europe, Braudel, le grand historien français, disait qu'en 1814, l'Europe, juste avant la guerre, l'Europe était prête de basculer dans le socialisme, il dit. Et donc c'est évident que cette contradiction, ce n'était pas seulement une contradiction économique à l'intérieur du capitalisme, il y avait une véritable alternative qui se mettait en place, hein. Et donc la violence énorme, c'était pour éliminer cette possibilité alternative socialiste ou communiste. Aujourd'hui, la différence, on se trouve dans cette situation sans avoir cet danger pour le capitalisme, hein. Donc il n'a pas besoin d'adopérer toute la violence qu'il a adopérée il y a un siècle, hein. Et donc, à mon avis, mais quand même, vous voyez, il n'arrive pas à s'en sortir sans passer par des formes autoritaires, qui sont de nouvelles formes de fascisme, et sans que les États-Unis imaginent, on ne sait pas encore où va mener, hein, mais imaginent une nouvelle guerre froide où l'ennemi principal, c'est la Chine. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'on voit effectivement... Et cette histoire, c'est pas, elle n'est pas terminée. Hein. Ce n'est pas parce que Trump a perdu. Hein. Il y a un débat aux États-Unis, effectivement. Si vous lisez les journaux qui sont sortis aux États-Unis un an après la chute de Trump, ils parlent de guerre civile. Quoi. Les États-Unis sont divisés en deux. Hein. Et donc, voilà. C'est-à-dire que le capitalisme, quand il pousse, hein, on les libère complètement de toute forme de régulation. Quand il pousse aux limites ses capacités productives de créer il va vers des contradictions qui sont énormes, hein, et qui peuvent être résolues seulement avec des formes autoritaires ou la guerre. Alors aujourd'hui, la situation, comme j'ai dit tout à l'heure, est complètement différente, d'abord parce qu'il n'y a pas le socialisme, il n'y a pas la révolution soviétique, ces projets n'existent plus. Les moyens de contrôle de la crise sont beaucoup plus forts. Hein. On a compris que il faut insérer de l'argent donc dans l'économie plutôt que ne pas les mettre comme ils ont fait au début des années du siècle, du XXe siècle. Hein. Donc, on a la capacité d'intervenir différemment. Mais quand même, on va vers des formes que, moi, j'ai défini nouvelles formes de fascisme. Elles ne sont pas égales au fascisme historique, pour les raisons que je viens de dire. Mais quand même, il y a des fascismes qui se montent partout. Quoi. L'extrême droite monte partout. C'est-à-dire que le racisme et le sexisme redeviennent des enjeux politiques absolument fondamentaux aujourd'hui.
Non, tout à fait. Et aussi, les États-Unis sont divisés, mais en même temps, pour des questions très importantes, ils sont très unifiés, l'élite en tout cas, la classe politique. Par exemple, les budgets du Pentagone qui ont été approuvés par le gouvernement Biden est le plus grand de l'histoire, presque 800 milliards de dollars. C'est du jamais vu. Et en fait, l'un des concepts avec lesquels vous travaillez est celui de machine de guerre. Pourriez-vous nous dire, nous rendre un peu plus sur ces concepts et nous expliquer en quoi il est stratégique pour la réflexion sur la analyse que vous menez.
Donc là, je vais sortir bientôt un livre sur la révolution. Et il y a 2 ou 3 ans, 4 ans, j'avais fait un livre sur la guerre avec Eric Aliès. Donc moi, je pense qu'il y a 2 concepts qui étaient au centre du débat révolutionnaire pendant l'histoire du mouvement révolutionnaire, donc la guerre et la révolution, qui ont été complètement oubliés. Donc, on les a mis de côté. On a enlevé la question de la guerre et la question de la révolution. Alors, il est impossible de penser le capitalisme sans la guerre. C'est-à-dire, historiquement, le capitalisme, la forme, disons comme ça, de la guerre et la guerre civile font partie de la... Des instruments que le capitalisme, des alternatives, des options que le capitalisme a à disposition. C'est-à-dire, on ne peut pas penser seulement le capitalisme comme production. C'est ça le problème, c'est qu'on pense le capitalisme seulement comme production selon un concept marxiste, etc. etc. Donc, ça, c'est sûrement ça. Hein? Mais si on pense, il faut mettre dans le concept de capital la guerre, le fascisme, le sexisme. Il faut mettre et le fascisme, c'est-à-dire il faut mettre dans le concept de capital ce qui n'y était pas. On a une vision un peu économiciste si on pense seulement le capitalisme comme production et après la guerre, le fascisme et le sexisme viennent de l'extérieur, d'une certaine façon. Non, le capitalisme est né avec la conquête des Amériques. 1492, il n'est pas né avec la révolution à Manchester, il est né avec l'esclavage, l'implantation de l'esclavage. Donc, c'est une chose fondamentale. Et il est né avec le fait que la subordination de la femme a été finalisée à la production capitaliste. Donc, il y a effectivement une quantité énorme de travail qui n'était pas reconnu par le capital, le travail des esclaves, le travail des pauvres, le travail des gens du sud, le travail des femmes, qui doit être intégré dans le capitalisme, aussi bien comme travail que comme forme de domination. Cette chose, donc, si on prend effectivement le début du capitalisme qui commence avec la conquête des Amériques, on ne peut pas séparer le capitalisme de la guerre, des conquêtes. La guerre des conquêtes est fondamentale dans le sud du monde. En Europe, de façon avec l'enclosure et tout ça, de façon beaucoup plus violente, beaucoup plus forte dans le sud du monde, mais la guerre des conquêtes fait partie du capitalisme. Sans la guerre des conquêtes, il n'y a pas la formation des classes. Il faut la guerre des conquêtes parce que les paysans soient dépossédés des moyens de production, parce que les Africains deviennent des esclaves. Il faut une guerre des conquêtes. Et parce que les indigènes de l'Amérique du Sud deviennent des colonisés, il faut la guerre des conquêtes, sinon ils ne deviennent pas. Donc il faut réintroduire ce concept de la guerre des conquêtes qui est absolument fondamental. Qui, chaque fois, se reproduit. Vous voyez le passage du Fordisme au néolibéralisme. Ce n'est pas un hasard que le Chili soit un élément absolument fondamental. C'est un élément fondamental parce que chaque nouvelle forme de colonisation présuppose effectivement une guerre de conquête aux États-Unis, au Chili, par exemple, mais dans toute l'Amérique latine, à ce moment-là, il y a eu une véritable guerre, quoi, hein, une guerre civile interne, et seulement à la fin de la guerre civile, on a imposé le néolibéralisme. Donc, ce qu'on ne dit pas, qu'on oublie de dire, c'est que le néolibéralisme sans Pinochet, hein, n'existerait pas, il n'aurait pas cette forme-là. Et on sait que Friedman, comme j'écris dans le livre, que Friedman, que Hayek sont allés au Chili et ils ont concocté, et qu'à chaque gouvernement de l'Amérique du Sud, des colonels, hein, des militaires, avaient dedans les néolibéraux. Hein. Donc, c'est que Foucault oublie complètement de raconter l'histoire du néolibéralisme. C'est ça, hein, on ne peut pas raconter le néolibéralisme sans parler de ce qui s'est passé en Amérique latine. Hein. Que l'expérience du néolibéralisme commence en Amérique latine. Donc, ce que je dis, il faut réintroduire ce concept de guerre. Il faut réintroduire le concept de racisme, parce que le racisme, ce n'est pas une forme extérieure, c'est une forme absolument antérieure au capitalisme. Comme la domination de la femme, c'est un concept qu'il faut mettre à l'intérieur du capitalisme. Donc, il faudrait élargir le concept de capital, hein, en mettant dedans ce qui n'y est pas et qu'on essaie d'ajouter après. Le capital, ce n'est pas seulement ce qu'a décrit Marx. Hein? Parce que Marx décrit l'accumulation primitive. Donc, il l'écrit effectivement. Mais après, on a l'impression qu'après, une fois que le mode de production manchestérien est mis en place, hein, l'accumulation primitive n'existe plus. Non, cette forme de violence continue toujours. Donc, il y a une complaisance des modes de production et des formes de violence qui sont liées au racisme, au sexisme, à l'exploitation, hein, qui sont contemporaines, hein, et ne sont pas différentes. Si on regarde l'histoire du capitalisme, non du point de vue de l'Europe, mais du point de vue du monde, si on regarde du point de vue du monde, le capitalisme a été toujours production et guerre, production et domination, production et violence. Hein. Le problème, c'est que souvent, le marxisme européen, hein, regarde regarde l'histoire du capitalisme seulement du point de vue de l'Europe. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut toujours associer, parce que les marchés, c'est le marché mondial, comme disait Marx, seulement que Marx et les marxistes n'ont pas vraiment analysé. Parce que le capitalisme existe comme un marché mondial, mais comme un marché mondial, il existe parce qu'il y a dedans l'esclavage, une nouvelle forme d'esclavage, il y a la colonisation, il y a une nouvelle forme de colonisation, il y a la domination de la femme, la nouvelle forme de domination de la femme. Donc, toutes ces formes de domination doivent être tenues ensemble, hein, même si cette forme de domination ne sont pas immédiatement, on ne peut pas les réduire à la relation capital-travail dans le sens classique du terme. Voilà, c'est pour ça que la question de la guerre est absolument fondamentale, surtout la guerre de conquête.
On a lu votre livre en anglais, mais j'ai traduit une partie pour le français. Alors peut-être c'est pas exactement ça, mais vous écrivez que machine de guerre signifie que la société est divisée, qu'il y a des forces opposées, que ces forces se manifestent par des stratégies de confrontation, y compris par la technologie. Et aussi, vous ajoutez qu'elle ne produit pas seulement la machine technique, mais aussi les humains qui la servent. Et vous ajoutez que l'homme et la machine sont un agencement, donc un champ de possibilités, de virtualités, autant que d'éléments constitués. Pièces mécaniques, logiciels, algorithmes, mais tout cela doit être encadré par rapport aux possibilités et aux éléments constitués de la machine de guerre. Quelles sont les implications de votre compréhension de la machine de guerre en ce qui concerne la crise écologique?
Non, mais oui, la machine de guerre, c'est-à-dire... Pour comprendre ce que c'est la machine de guerre, c'est très facile. On prend le travail qu'a fait Mumford, hein, c'est un historien. Quand il a analysé l'Empire égyptien, il parle des machines sociales, ou des méga-machines. Hein. C'est une méga-machine, la productivité de la, de la, de la, c'est ça la question, la productivité de la méga machine, donc une société, elle ne dépend pas seulement de la technologie. D'abord, elle dépend de la machine politique. Mm-hmm. Les Égyptiens ont construit des monuments énormes, donc des pyramides, avec des technologies minables, hein, des technologies très simples. Hein. Mais c'est la méga machine qui les a produits. Donc, ce que je voulais introduire, c'était ce concept qui n'est pas de moi, qui est de Deleuze et Guattari. Hein. C'est la différence entre machine technique et machine politique, ou machine de guerre. Hein. Parce que normalement, on fait l'analyse des technologies seulement du point de vue technologique. Hein. On ne voit pas la méga machine qui produit les technologies. Dans ce cas, par exemple, on ne voit pas la fonction que le Pentagone a eu et l'armée américaine a eu dans le développement de la science. Hein. On sait que toutes les nouvelles technologies sortent pratiquement de la Deuxième Guerre mondiale, hein, parce qu'elles ont été inventées, produites à l'intérieur des financements et des contrôles politiques de l'armée américaine. Hein. Et ça a continué pendant toute la guerre froide. Mmh. Et encore aujourd'hui, ce sont pas l'investissement en technologie du Pentagone et de l'armée américaine est supérieur à l'investissement que fait Google, Amazon, tout ça. Hein. Donc, ils nous font toute cette idéologie sur les entrepreneurs individuels, encore, quand encore aujourd'hui, c'est la machine politique qui contrôle le développement de la technologie. Bon, c'est pour ça que j'ai introduit ce concept des machines de guerre en disant qu'effectivement, si on regarde même le développement technologique, il y a ce rapport entre la machine politique et la machine technologique. Donc, on ne peut pas séparer les deux en pensant qu'il y a une révolution technologique qui arrive tout seul et la révolution technologique change les conditions sociales. Hein. Ce n'est pas ça. Mm. Toujours le même problème, si on regarde comment est né le néolibéralisme, il faut une machine de guerre qui élimine la possibilité de révolution en Amérique du Sud. Hein. Une fois qu'on a éliminé la révolution et qu'on a vaincu les gens qui voulaient changer, et donc sont des vaincus, à ce moment-là, on peut effectivement appliquer les préceptes néolibéraux. Mm-hmm. Mais c'est pas parce qu'on transforme des vaincus en gouvernés. C'est parce que vous avez perdu, hein, subjectivement. Hein, vous êtes défait, effectivement, vous n'avez pas d'autre alternative. Hein. Vous avez perdu politiquement et militairement. Hein. Une partie ont été massacrés, d'autres parties ont été torturées, d'autres sont partis à l'exil. La population est défaite. À ce moment-là, une fois que la machine politique prépare la machine économique, la machine économique vient après. La machine économique, la gouvernementalité, si vous voulez, de Foucault, arrive après. À ce moment, on peut le faire devenir capital humain, imposer la dette. Mais si vous disiez à quelqu'un, toi, tu es capital humain, quelqu'un qui essaie de faire la révolution, il vous dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, hein? C'est ridicule. Donc, il faut effectivement pour imposer capital humain, le capitalisme entrepreneur individuel et tout ça, hein, vous le faites seulement à partir de cette défaite subjective. Hein, la subjectivité, là, vous l'avez défaite, à ce moment-là, vous pouvez introduire les formes de gouvernementalité, donc les formes d'assujettissement. Alors, toi, tu es ouvrier, toi, tu es femme, toi, tu es endetté, tout ça, toute cette logique qui après a été mise, effectivement. Si on regarde l'histoire du Chili, la première fois qu'on a commencé à introduire la dette de façon très systématique, c'est au Chili, hein, pour commencer, pour les études, ils ont commencé à étudier, à introduire la dette pour les étudiants. Donc, effectivement, c'est pour ça que la machine politique est absolument fondamentale. Elle ne marche pas. C'est-à-dire, la machine, même la production, elle ne s'impose pas comme ça. Hein? Mm-hmm. Donc, la production arrive après. Et ça va toujours ensemble. Donc, c'est toujours, effectivement, mais on a perdu cette capacité de tenir ensemble la guerre, le capitalisme, le fascisme, le racisme, le sexisme. C'est ça, les formes de pouvoir qui, à mon avis, fonctionnent ensemble. Hein, et que là, maintenant, on voit, ça nous saute à la figure. On a une explosion du racisme, une montée du sexisme, hein, la possibilité de nouvelles formes de fascisme, la possibilité de guerre. Donc, c'est pour ça que je dis, si on veut analyser ce qui se passe maintenant, il faut revoir aussi théoriquement qu'est-ce que c'est le capitalisme?
Très bien. On arrive vers la fin de l'interview. On a encore deux questions. Et vers la fin du livre, vous écrivez que la destruction et la création sont complémentaires, ce qui signifie que pour la machine de guerre puisse réaliser la mutation, la conversion de la subjectivité et le dépassement du capitalisme, elle doit aussi avoir pour objectif la guerre contre le capital. Cette guerre doit aussi libérer la machine inséparable de l'humain. Que voulez-vous dire exactement? Comment envisagez-vous cette guerre pour libérer l'humain et la machine? Quelle forme de mobilisation sociale avez-vous en tête?
Ah, ça, c'est un peu compliqué, je ne sais pas très précisément. Hein, parce que... les livres que j'ai écrits, justement, même celui qui va sortir, qui s'appelle « L'intolérable du présent, l'urgence de la révolution hein, », parce que je pense que la révolution est là demain après demain, mais c'est un peu pour provoquer. Pourquoi le concept de révolution est sorti complètement du débat politique? Alors j'essaie de l'introduire, de comprendre pourquoi ce concept de révolution. Mais en fait, hein, la faiblesse des mouvements s'est révélée une fois que la révolution a été défaite, une fois que la révolution a été mise de côté, hein, ça fait 50 ans, qui aurait fait que subir. Hein? Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des mouvements révolutionnaires, des mouvements politiques avant, parce qu'il y avait, toujours cette possibilité de la révolution. Elle était toujours là, même quand on était défait, hein? La révolution était toujours possible. Là, aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'enlever même la possibilité. Le néolibéralisme, ce qu'il a fait de plus fondamental, à mon avis, c'est d'effacer cette mémoire de la révolution. Hein? Et moi, je vois qu'elle commence de façon très timide à émerger. Au Chili, hein, finalement, les révoltes depuis 2019, hein, quand elles ont rompu avec l'assujettissement capitaliste, la première chose qu'ils ont fait, ils sont revenus à la révolution qui avait été défaite. Hein. On chantait partout les chants des Allende, hein, de l'époque d'Allende. Hein. On essaye de retrouver un rapport avec la révolution, seulement parce que c'était le seul. C'est encore très fantasmatique, hein, c'est très faible comme rapport, même dans les mouvements. Et moi, à mon avis, les mouvements plus intéressants sont encore au sud. Hein, Vous devez savoir que le XXe siècle, c'est très étonnant, le XXe siècle a été le siècle des révolutions. Il n'y a jamais eu autant de révolutions dans l'histoire de l'humanité comme au XXe siècle. Si vous comptez toutes les révolutions qu'il y a eu, et la plupart ont eu lieu dans le sud. Dans le nord du monde, aucune révolution a réussi. Il y a eu seulement des échecs. Hein? Où ça a marché? Ça a marché au marge du capitalisme, à l'Union soviétique, et après, dans le sud, en Chine, Vietnam, Algérie, Amérique du Sud, Cuba et tout ça. Donc, pourquoi il faudrait s'interroger pourquoi il y a eu un siècle de révolution et pourquoi après ça a disparu. C'est un gros problème. Donc, on a eu un siècle où il n'y a jamais eu autant de révolution, mais en même temps, il y a eu une défaite historique de la révolution. Il y avait une certaine continuité de la révolution française, après à travers le 48, la Commune de Paris, la révolution soviétique et toute la révolution du Sud. Ah, il y avait une certaine continuité à partir de la révolution française on a l'impression que c'est interrompu. Alors, pourquoi? Point d'interrogation, je ne sais pas, ben, dans ce livre, c'est trop long maintenant, hein, j'essaie de comprendre pourquoi. Mais je ne pense pas qu'on puisse reconstruire un point de vue politique sans réinventer les concepts de révolution. D'ailleurs, pendant tout le 19e et le 20e siècle, même les luttes qui n'étaient pas vraiment révolutionnaires, hein, les luttes salariales, les luttes solidaires, tout ça, avaient toujours un lien direct et indirect avec la révolution. Une fois que la révolution a disparu, ces luttes, on se trouve toujours dans une posture de défensive. On est toujours en train de subir. Hein? On n'arrive pas à déterminer les terrains de l'affrontement. Ce sont les autres qui déterminent où on doit se battre, comment et tout ça. Et on arrive toujours en retard et on perd pratiquement toujours. Hein? Alors, voilà, moi je suis en train, j'essaie de voir, de poser la question plutôt de façon, j'ai aucune proposition, je ne peux pas moi décider, hein, mais je regarde ce qui s'est passé dans à partir de 2011. Hein, il y a effectivement, surtout dans le sud, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, il y a une reprise hein, avec le mouvement féministe qui est très important dans les. En Amérique latine, il y a une reprise des thématiques des ruptures. Des ruptures, je ne sais pas moi ce que c'est, mais ma thèse fondamentale, elle est dans ce livre. Bon, ce n'est pas la peine de discuter maintenant, mais bon, voilà, je pense qu'il faut repenser pourquoi la révolution était très importante, pourquoi elle a failli et pourquoi elle a disparu. Hein? Si on ne fait pas ces bilans, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on laisse. On reste des suspendus, donc à mon avis, il faut... Oui, non, je dis, j'ai aucune idée, mais je dis que s'il est vrai que la guerre de conquête fait partie de l'organisation du capital, etc., etc., il faudra prendre en considération qu'on ne peut pas seulement... Voilà, qu'il faut... Il faut faire un bilan, on dit peut-être la révolution est finie pour toujours. Bon, on dit elle est finie pour toujours, mais qu'est-ce qu'on met à la place hein? Pour l'instant, on n'a rien. Les alternatives ne sont pas crédibles. On n'arrive pas à trouver une façon de s'opposer efficace au capitalisme. Hein? Je trouve qu'on a. On a trouvé. On a des techniques et des stratégies qui sont très faibles. Alors peut-être. Peut-être que la révolution n'est plus d'actualité, hein, mais peut-être. Hein, donc, moi, je pose dans ces livres, je pose la question pourquoi a disparu et qu'est-ce qu'il faudrait penser à la place. Mais là, voilà.
Ah. Et pour, finalement, vous écrivez que la fonction fondamentale de la gouvernementalité est d'empêcher, de neutraliser, de faire la révolution. Vous la définissez comme une politique de l'anorganique par laquelle vous entendez que ce n'est pas seulement ce qui intervient dans la vie de l'espèce en s'occupant de la maladie, de la santé, de la vie, de la mort, mais beaucoup plus fondamentalement ce qui décide concernant les possibles et l'impossible. Nous connaissons les solutions aux problèmes les plus urgents de notre époque. Nous devons renoncer aux droits des propriétés intellectuelles de vaccins pour en élargir l'accès dans le monde entier et lutter contre la pandémie, par exemple. Nous devons arrêter la production de combustibles fossiles pour faire face à l'urgence climatique. Les problèmes n'est pas technique, c'est qu'il faut faire éclair, mais plutôt politique. Est-ce que vous entendez par gouvernementalité une politique de l'anorganique qui décide du possible et de l'impossible? Comment pensez-vous que votre livre peut nous aider à penser cette relation entre ce qui est possible et ce qui est impossible?
Oui, là, cette phrase est un peu comme ça, un peu compliquée, mais bon, je vous dis une chose très simple. D'abord, la gouvernementalité, c'est un processus de normalisation. Hein? La gouvernementalité, c'est vraiment... elle arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a déterminé une distribution du pouvoir, donc on a des vainqueurs et des vaincus, hein? Là, on va introduire les normes. Mais les normes arrivent seulement quand il y a une normalisation qui a déjà eu lieu. Hein? Et au Chili, c'est évident que les normes arrivent une fois que la normalisation a été produite par Pinochet. Pinochet va normaliser la situation. À ce moment-là, on va introduire une normativité, et c'est la gouvernementalité. La gouvernementalité va... c'est une forme de pacification. Elle va gérer la pacification. Une fois que la paix du pouvoir a été imposé, hein, on va construire de nouvelles formes d'assujettissement, on va construire de nouvelles formes, de nouvelles normes, etc., etc. Donc, pour moi, la gouvernementalité, c'est ça. Mmh. Et donc, cette idéologie de la gouvernementalité qui fonctionne beaucoup en ce moment, hein, suite à Foucault, a cette fonction de normalisation. Je pense que, donc la question, c'était le possible et l'impossible. Je pense, par contre, hein, que, là, je disais seulement que ce que contrôle, c'est que la gouvernementalité contrôle, ce qu'elle décide, ce qu'elle impose, ce qui est possible et ce qui est impossible dans certaines situations. Donc, c'est ça, je dis. C'est possible devenir capital humain. C'est possible devenir entrepreneur de soi. Hein? Ça, c'est possible. L'impossible, c'est effectivement l'impossible. C'est la révolution, l'impossible. Hein? Donc, ça, c'est ça qui détermine, hein? Ce qui est possible, ce qui est impossible. En réalité, c'est ça, fondamentalement, la gouvernementalité. Hein? Ça, c'est possible s'endetter. Hein? Tu dois t'endetter. Hein? Ça, c'est possible. Toi, pour avoir accès à intégrer dans l'économie, hein? C'est pas seulement à travers le travail et le welfare, même ça tu peux l'oublier, hein? Il faut que pour l'intégrer, il faut que tu t'endettes, hein? Tu as accès à l'école, aux soins à travers la dette, ça c'est possible, hein? Même c'est ce qui est imposé, c'est ça la nouvelle normativité, c'est ça. Ce qui est impossible est sortir de cette histoire, hein? Thatcher a dit très clair, il n'y a pas d'alternative, donc c'est ça, hein? Donc fondamentalement c'est ça que je dis, que ce qu'il faut intervenir, c'est changer les possibles, quoi. C'est ça le problème, c'est inventer de nouveaux possibles. Et je pense qu'il faut une rupture pour faire ça. Hein. La révolte au Chili, hein, les journées qui ont déterminé la révolte au Chili, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fondamentalement, ils ont créé de nouvelles possibilités. Hein. Ils ont ouvert les possibles. Hein. Ils ont finalement créé du temps, hein, où il n'y avait rien. Il y avait seulement la gouvernementalité. Ils ont ouvert des possibilités. Et donc là, c'est l'impossible qui devient
possible.
Non possible pour la première fois. Donc voilà, c'est ce que je disais. C'était un truc un peu littéraire, mais fondamentalement, ça veut dire ça. Ça veut dire très pragmatiquement que sont les ruptures, les révoltes, hein, qui vont interrompre le cours normal du temps. Qui est celui de la gouvernementalité, qui est celui du néolibéralisme, hein, l'interruption du temps, ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé en Afrique du Nord, ce qui se passe avec le mouvement féministe, hein, interrompre un cours normal du temps et ouvre une nouvelle temporalité. Une nouvelle temporalité, c'est pas la révolution, c'est l'amorce de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc voilà, c'est effectivement ramener, faire vivre encore une fois l'impossible. C'est que le néolibéralisme a effacé la révolution, il a effacé l'impossible. Voilà, donc il y a seulement la possibilité que c'est lui-même qui décide, c'est la communauté qui décide ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Voilà.
Très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Lazzarato, pour votre temps et pour vous nous donnez tellement des éléments pour réfléchir sur les sujets avec lesquels on travaille dans la politique climatique. Et alors, moi, j'ai trouvé Le Capital des Tests, tout le monde, un livre fascinant. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a provoqué beaucoup et nous a donné beaucoup d'éléments pour réfléchir sur les sujets sur lesquels on travaille aussi. Merci beaucoup de parler avec nous.
Très bien.
And that's it for today's episode of Carbon Critic. Follow us on Twitter at @democracyiass. Carbon Critic is produced by the Ecopol Research Group, Cecília Oliveira, Alexandra Tost, Bernardo Jurema, Nicholas Schaeffer, and Pablo Nunes. Anya Krieger is the consultant who has provided technical assistance. The music is by Matheus Alves. If you liked our podcast episode, leave us a comment or a review. If you want to know more about our project and what we do, you can find the link to our webpage in the show notes.